Vous écoutez IDFM, il est 14h.
Je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations, une émission dédiée aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association Sergissoise, école et vie locale. Créée il y a 37 ans, l'association organise et anime des rencontres et des échanges école-entreprise afin de préparer au mieux l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle, mais aussi dans la société dans laquelle ils évoluent. EVL, c'est ainsi 450 interventions chaque année dans les collèges et les lycées de 4 départements franciliens. C'est aussi 30 bénévoles actifs, une salariée, 100 établissements scolaires partenaires et plus de 7300 jeunes accompagnés par l'association. Pour nous parler de cette action, j'accueille cet après-midi Henri Allemand, président de l'association depuis 20 ans, Jean-Pierre Siffrit, vice-président, et Elisabeth Ducré, administratrice en charge de la communication de l'association. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé, puis Henri, Jean-Pierre et Elisabeth nous présenteront concrètement ce que fait l'association. Et en dernière partie d'émission, nous verrons comment vous arrivez à fédérer votre réseau de bénévoles dans un contexte conjoncturel pas toujours simple. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé, évidemment si vous êtes d'accord.
Bien sûr.
C'est parti ?
C'est parti.
Alors, la question habituelle que je pose toujours aux invités, c'est quel est votre parcours en dehors de l'association ? On va en parler, d'école et vie locale, mais... qui êtes-vous, Henri?
Bien, écoutez, moi je suis lyonnais d'origine et puis mon métier de départ c'est l'électronique. Je suis rentré dans une grande entreprise lyonnaise et à partir de là, j'ai tenté d'évoluer pour avoir un peu plus de responsabilité dans le département où j'étais. J'ai suivi les cours du soir pendant 7 ans. Donc, cours du soir, c'est presque tous les soirs de 18h30 à 21h30. Et au bout, il y a la récompense, c'était le diplôme d'ingénieur en électronique. À partir de là, j'ai cherché du travail. Et puis, sur Lyon, c'était un petit peu juste. Et je suis, comme on dit, monté jusqu'à Paris. Et là, j'ai eu plus davantage d'ouverture jusqu'au jour où je suis rentré dans l'entreprise 3ème France. Dans cette entreprise, je suis rentré avec mes connaissances en électronique. Et alors, ce qui était formidable, c'est que cette grande entreprise, 160 000 personnes dans le monde, n'avait pas d'électronicien à 3ème France. Et pourtant, ils venaient de recevoir tout un tas de machines bourrées d'électronique. Et comment les faire démarrer? Comment les entretenir? Donc, c'est à la fois pour moi une fierté de rentrer dans cette entreprise. On ne m'attendait pas, mais pas loin. Et de notre côté, j'avais très peur. Est-ce que je serais à la hauteur, quoi? Et puis, ça s'est passé. J'ai monté une petite équipe. Après, en maintenant, j'ai élargi mes responsabilités. Après, la technique, c'était aussi technique et gestion. Et puis, je l'ai fait pendant 18 ans. Donc, j'ai connu l'intérieur de l'usine auprès des machines et puis au niveau un peu plus large d'encadrement. Après, je le dis, des fois, ça peut choquer. J'ai mal tourné. Donc, je suis passé en ressources humaines. Alors, je suis mal tourné par rapport à la technique, si vous voulez.
Vous avez laissé les machines, vous avez préféré les hommes?
Et là, oui, effectivement, j'entretenais les machines et après, je m'occupais, j'aidais les personnes qui faisaient tourner ces machines. Quoi. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et en la fin de ce parcours-là, j'ai eu l'opportunité d'être en charge d'un projet qu'on appelle gestion par les compétences. Et j'ai ensuite quitté l'entreprise, là aussi je le dis un petit peu en riant, le dernier jour du siècle dernier.
Mmh. Oui, donc le 31 décembre 1999, pardon, oui.
Et le 2 janvier, j'étais à EVL. Voilà, donc ce parcours EVL, comme on était dans une phase où l'association, les anciens bénévoles qui l'avaient créée commençaient à partir, il fallait la remonter, le président voulait partir, donc voilà.
Vous allez nous raconter ça.
Voilà, plus tard.
Jean-Pierre, d'où vous venez ?
Alors écoutez, bonjour, bonjour à tous. Donc moi, Jean-Pierre Siffrit, je suis tabernacien. Tabernacien de la ville de Taverny, dans le Val-d'Oise. Donc quand j'étais étudiant, eh bien, je voulais être professeur dans l'enseignement supérieur. Et malheureusement, ces grandes études en prépa, c'est sanctionné par un concours que je n'ai pas eu, puisque le concours, c'est une sélection. Donc je me souviens, à l'époque, il y avait 1000 candidats sur la France pour 30 places. Donc c'était très, très difficile. Et donc je suis rentré. Alors c'est vrai, il faut reconnaître que dans les années 70, on avait énormément de propositions de job. Donc le même jour, j'en avais 3 et j'ai choisi 3M. Alors 3M, les gens peut-être connaissent pas 3M, c'est plus le nom de scotch. Le post-it note, les éponges, le scotch bright, etc. Et je suis rentré dans le milieu industriel. Et ben, comme je dis aux jeunes, quand j'interviens en classe, je leur dis faites-vous connaître parce que là, vous allez pouvoir évoluer dans une entreprise, même si aujourd'hui, ça paraît difficile. Et donc, j'ai fait plusieurs métiers dans la même entreprise pendant 31 ans. Donc, j'ai fait de la qualité, donc au bas de l'échelle. Et là, ben, on m'a proposé plusieurs responsabilités, dont la responsabilité du groupe qualité. Donc, j'ai géré 17 techniciens. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas. Nous, le management, on ne savait pas du tout comment ça se passait. Et grâce à 3M, je reconnais que cette entreprise m'a énormément apporté beaucoup de choses. Elle m'a construit au niveau monde professionnel parce qu'il y a énormément de formation. Et par contre, il faut se faire connaître. Et là, on vient vous chercher. Et on m'a donné la responsabilité ensuite d'une production. Donc, c'était dans les années, je me souviens, dans les années 80, c'était là. On avait cassé les organisations hiérarchiques au lieu d'avoir une hiérarchie traditionnelle. Le responsable en haut et l'opérateur
vertical,
c'était la mise en place de petits modules, donc de petites entreprises dans la grande entreprise. Et là, on m'a nommé donc à l'époque chef de module. Et là, on avait tout à gérer. Alors, bien sûr, beaucoup de stress, mais on avait 40 personnes à gérer, aussi bien qualité, sécurité, relations avec les ventes, le marketing. Enfin, on était vraiment patron d'une petite entreprise.
Et autonome.
Autonome. Et c'était vraiment très motivant. Ensuite, eh bien, on m'a nommé ingénieur de production et à la fin, j'ai passé les 10 dernières années comme ingénieur chef de projet Europe. Bon, ben là, c'était. Je me plaisais dans mon métier et jusqu'au jour. En plus, je faisais du CHSCT, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, en tant que secrétaire. On est venu me chercher, c'est pareil, j'ai été élu. Et puis, en 2002, malheureusement, externalisation de cette production d'abrasifs industriels dans lequel j'étais. Et donc, je suis sorti en 2002. Et ben, grâce à Henri. Qui est venu me chercher, il m'a proposé de venir voir quelques temps comment ça se passait sur le terrain. Et depuis 2002, je suis donc dans cette association. Alors c'est vrai qu'en 2002, j'avais que 53 ans, donc c'était jeune, et je suis à la retraite depuis 2009. Et je passe beaucoup de temps dans cette association, en plus d'autres activités, bien sûr, personnelles, avec des petits-enfants, du bowling, etc. Donc voilà, je suis très très occupé.
Merci Jean-Pierre et Elisabeth.
Alors, bonjour.
Votre parcours.
Alors, parcours un petit peu différent de ceux d'Henri et de Jean-Pierre. Moi, j'ai très mal commencé, je dirais très mal fini mes études et très mal commencé ma vie, puisque je n'étais pas passionnée par les études. Je suis ce que j'appelle une autodidacte. Alors, je vais être autodidacte au début de ma vie professionnelle avec beaucoup de petits boulots. Je suis allée en Angleterre faire la plonge, les ménages. Je suis rentrée en France, j'ai été assistante dentaire. Et puis, à un moment, je me suis dit, oups, ma vie, ça ne peut pas être ça. Donc, j'ai repris des études en passant par l'AFPA. J'ai fait une formation d'analyse programmeur parce que c'était la grande mode de l'informatique. Et je me suis dit, là, il y a du travail. Et après, j'ai commencé, je dirais, à avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai fait un premier stage comme analyste programmeur dans une société américaine où le responsable m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu n'es pas programmeur du tout. Toi, tu es commercial. Donc, il m'a fait passer au commercial. Il m'a envoyé 5 semaines aux États-Unis pour une formation, ce qui était génial. Bon, je parlais couramment anglais puisque j'avais vécu 3 ans en Angleterre. Et puis, de fil en aiguille, quand je suis rentrée, bah, j'ai commencé à faire du commercial dans une société d'informatique. Et puis, très vite, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon partenaire sur de nombreuses expériences et de nombreuses activités, puisque je me définis maintenant comme serial entrepreneur. J'ai quitté le métier de commercial pour monter une première société qu'on a développée pendant 5 ans au niveau international. Donc, on était présent dans plusieurs pays. Ensuite, on a revendu cette société à un groupe américain. On a remonté une autre société qui n'a pas marché. On s'est dit, on arrête avant de pouvoir, de ne plus avoir les moyens de rebondir. Enfin bref, de fil en aiguille, j'ai monté cinq sociétés différentes.
Ah oui, quand même.
Dont deux très grosses, enfin, qui ont fini, si je puis dire, puisqu'on les a revendues, avec 200 salariés sur l'international, les deux. Et donc, en montant une entreprise, on voit tous les métiers de l'entreprise. Et c'est comme ça, quand je dis je suis autodidacte, je me suis formée un peu à tous les métiers de l'entreprise, à part l'industrie, toujours été dans le service. Voilà.
Et alors, vous êtes tous les trois retraités, vous avez des activités, je crois que vous êtes aussi auto-entrepreneur, oui, à côté. Vous, Elisabeth, j'imagine que vous avez peut-être encore une entreprise par-ci, par-là qui traîne.
Par-ci, par-là. J'ai remonté un fonds de financement qui aide les jeunes entreprises, donc je fais aussi du coaching de start-up.
D'accord.
Et je les aide à se financer.
Alors, et Jean-Pierre ?
Quant à moi, j'ai une autre activité très, très, très importante et stressante. Je suis papinou. Donc, j'ai 4 petits-enfants et lorsqu'on les a, on est vraiment content de les avoir. Mais bon, aussi, je fais partie d'une autre association où on habite, un lotissement. Donc, je suis trésorier et je fais du sport. Enfin,
vous avez d'autres engagements, familiaux, personnels.
Familiaux, personnels, etc. Et c'est vraiment très plaisant.
Et Henri ?
Bien, moi, je suis en parallèle avec l'association conseiller VRE au CNAM. Et conseiller VRE, c'est des personnes qui ont énormément d'expérience, qui n'ont pas les diplômes correspondants. Et lorsqu'ils se présentent, ils veulent quitter l'entreprise, aller dans une autre entreprise, il y a un décalage entre le diplôme initial et l'expérience. Et donc, mon rôle consiste en, de 6 mois à 1 an, de les aider à monter un dossier et de passer devant un jury qui va leur accorder toute ou partie du diplôme. Donc, je fais ça depuis 2003, en statut auto-entrepreneur.
Donc, toujours finalement dans l'accompagnement, que ce soit des start-up ou des porteurs de projets, que ce soit les petits-enfants ou que ce soit les futurs diplômés.
Et également mes petites-filles.
Et vos petites-filles aussi, on ne les oublie pas. Alors, vous nous avez parlé un peu de votre parcours professionnel. Vous vous rappelez si vous étiez seule dans cette question de l'orientation, Elisabeth dit, moi, je me suis complètement trompée au départ. Vous, Henri, vous êtes allé faire des cours du soir pour essayer de... d'avoir la vie professionnelle souhaitée. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a orienté, des proches, ou vous êtes fait tout seul ?
Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais dans une grosse entreprise, et cette entreprise, c'était, pour l'ensemble des techniciens, la voie normale était d'aller suivre des cours du soir. Donc, j'ai fait un petit peu comme tous ceux qui étaient autour de moi, et on suivait les cours du soir. Quoi.
Mais sur le métier les études, qui vous a orienté ? Vous aviez un environnement familial qui vous a suivi ?
Non, avec le bac en poche, je me suis posé la question. Et puis un jour, je suis allé voir à l'université, j'ai vu une affiche, à l'époque ça s'appelait le bus, et qui disait « devenir électronicien, c'est un métier d'avenir, n'hésitez pas ». Ben, je n'ai pas hésité. Et donc j'ai suivi 1 an de formation à l'AFPA.
Et vous, Jean-Pierre ?
Alors moi, c'est assez spécial, c'est que donc déjà, j'ai pas été aidé par mes parents parce que moi, à l'époque, ma maman travaillait pas, mon papa était chef magasinier, donc on n'avait pas trop. Donc on travaillait nous-mêmes, hein, donc c'était déjà une chose assez importante. Et je voulais faire technique. De toute façon, je voulais pas faire d'études générales, comme on disait à l'époque. Donc j'ai fait technique au lycée d'Anguin et j'ai découvert une matière qui m'a vraiment emballé, c'est la mécanique générale. J'adorais donc tout ce qui était résistance des matériaux, les statistiques, et donc j'ai passé mon bac que je n'ai pas eu. En 1969, j'ai réussi à passer en prépa quand même sans baccalauréat. Grâce à quoi ? Grâce à mon dossier scolaire. Donc, j'ai passé mon bac en candidat libre. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment apporter, en tant que professorat, c'est apporter aux jeunes un savoir-faire, quoi, hein. Donc, et j'ai réussi par 3e, justement, à retrouver cette motivation que j'avais.
C'était transmettre un savoir, partager.
Manager, mais non pas manager comme dans le temps, où c'était vraiment une sorte de... direction
très hiérarchique,
et voilà,
verticale,
alors là,
mais
c'était plus horizontal. Du coaching, c'était plus, et j'ai retrouvé dans cette association ce phénomène où c'est bizarre parce qu'on dit que la boucle est fermée et c'est vraiment ce que je retrouve. Je me retrouve dans le monde de l'éducation nationale et j'apporte ce savoir-faire, ce savoir et puis ce savoir-vivre aussi, savoir-être.
Savoir-être.
Voilà. Et ça, c'est important. Ça.
Oui, Henri. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, sans qu'on l'ait voulu au départ, on retrouve parmi tous les bénévoles d'école et vie locale cette envie à un moment donné d'aller vers les jeunes et d'être dans la formation.
Et de partager.
Oui.
Et vous, Elisabeth, vous étiez assez seule, vous, dans l'orientation?
Moi, j'étais assez seule parce qu'assez rebelle, parce que j'ai des parents qui sont professeurs, donc j'avais pris le contre-pied de ne rien faire. En fait, moi, j'ai repassé le bac en candidat libre à 25 ans parce que je me suis dit, bon, c'est quand même bête de travailler jusqu'en terminale pour ne rien faire. Et puis, finalement, je me suis vraiment formée au fil de l'eau. Ce que j'ai aimé, surtout dans toutes les expériences que j'ai eues professionnelles, c'est justement de partager avec les gens qu'on recrutait. On a beaucoup recruté des jeunes qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient un gros potentiel. Et c'est vraiment là où j'ai apprécié tout ce que j'ai fait, quelle que soit la société.
Bon, alors c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on dit aux jeunes, on va avoir de la formation toute notre vie. On l'a eu, nous, et on se construit tout le temps, même encore aujourd'hui, on se construit parce qu'on apprend des choses avec les jeunes dans lesquels on intervient. Donc c'est ça qui est surprenant. Je trouve que la vie, elle est vraiment... Il n'y a pas de fin, quoi.
Alors les facteurs qui vous... Enfin, les points communs, il y en a certainement plein d'autres, hein, mais c'est la détermination, la persévérance, l'ambition aussi. Alors, Henri, est-ce que vous pourriez revenir, vous l'aviez un peu évoqué, sur l'histoire d'EVL. Comment est née cette association et vous, comment vous y êtes rentré?
Bon, ça peut être le début d'une histoire. 1983, Hélier Charlot, qui est le fondateur d'EVL, écrit au président de la République, François Mitterrand à l'époque, en disant « je suis horrifié, je ne comprends pas, il y a des élèves qui sortent du cursus scolaire qui ne trouvent pas de travail, et puis parallèlement, il y a des entreprises qui ne trouvent pas les bonnes compétences dont ils ont besoin. » C'était un cri d'alarme, voilà, adressé au président de la République. La démarche a fonctionné, puisque quelques semaines après, Hélier, accompagné de collègues, je vais citer leur nom parce qu'ils ont fait beaucoup pour l'asso, Alain Steck, qui est devenu salarié dans l'association quelques temps après, et puis Jean Le Floch, qui était responsable dans une entreprise. Et ils ont rencontré, donc tous les trois ont rencontré le maire de Cergy à l'époque, et Alain Richard, qui est sénateur et qui était maire de Saint-Paul-le-Mône. Et ensemble, ils ont échafaudé quelque chose. Alors, il y a eu, pour faire court, il y a eu la période garage. Bien sûr, c'est-à-dire que les réunions se faisaient dans le garage, en l'occurrence d'Alain. Et ça a duré quelques années comme ça. Ils ont mis en place les interventions que l'on fait encore maintenant, même si on les a améliorées. Et ça a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, EVL a eu une adresse, celle que vous connaissez maintenant, 5 avenue de Villarceau à Cergy. On avait nos propres locaux, dont on a transformé une partie en formation. En salle de formation.
Et vous êtes rentré dans EVL?
Moi, je suis rentré à EVL 17 ans après. Hein, 17 ans après.
Et vous, Jean-Pierre, vous avez connu l'association?
Alors moi, j'ai connu l'association grâce à Henri, hein, puisque c'était mon patron de la formation au sein de l'entreprise 3M en France. Et donc, en 2002, quand vous partez d'une entreprise à 53 ans et on vous dit qu'il n'y a plus de travail, on se dit, mais attendez, on n'est plus bon à rien, quoi. On n'a plus de communication. Et je ne voulais surtout pas rester chez moi. En plus, ma femme travaillait, puisqu'elle est un peu plus jeune que moi. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à des gens qui partent à la retraite, c'est essayer d'avoir un projet. Parce que c'est pas facile à gérer, c'est pas facile mentalement, psychologiquement.
De regarder une dynamique intellectuelle,
quelque chose.
Une
et puis activité. En plus, bon ben, ça permet au cerveau de pouvoir être actif et c'est important pour la santé, je pense, tout ça. Et donc je suis rentré à EVL. Et là, ce qui m'a plu, alors moi pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le terrain. Hein, c'est surtout pas l'administratif. Comme je l'ai dit, nous à EVL, on a une phrase qui me donne beaucoup de choses, c'est on se prend du plaisir. Si on ne se prend pas de plaisir en bénévolat, je pense que ce n'est pas la peine de faire du bénévolat. Alors, j'avais d'autres associations, dont une qui permettait à des gens de créer leur propre entreprise. Mais quand j'ai vu comment c'était apprendre beaucoup de lois, de règles, etc. Et non, ce n'était pas pour moi. Et donc là, en 2002, je suis rentré et j'y suis encore. Ça fait quand même 17 ans. Et ce qui m'intéresse, c'est que je suis, bon, en tant que vice-président, c'est que j'ai beaucoup de relations grâce à Henri, hein, grâce à l'association. J'ai des relations avec ben, les communes, avec les entreprises. Je suis référent au niveau de ma commune de Taverny, donc ça c'est aussi...
On retrouve donc à nouveau des marges de manœuvre, partage...
Que j'avais au sein de l'entreprise. C'est pour ça que, c'est pour moi, l'entreprise, c'est pas fini. C'est comme si j'étais encore dans une entreprise. L'avantage de VL, c'est qu'on fonctionne comme une entreprise. On a des réunions, on réfléchit, on a bon, c'est grâce à l'organisation administrative de VL... Donc, je n'ai pas du tout perdu ce côté entrepreneuriat et gestion organisationnelle, plutôt.
Et vous, Elisabeth ?
Alors, moi, je suis plus récemment arrivée chez EVL, puisque ça fait un peu plus de 2 ans que j'y suis. Comment j'ai connu EVL ? Ben, je crois en cherchant sur Internet. J'avais décidé, justement, de partager mon expérience et mes débuts chaotiques, je dirais, avec les jeunes. Donc, j'ai cherché un petit peu des associations qui pouvaient me donner l'occasion de rencontrer des jeunes pour les aider et peut-être leur donner une ouverture d'esprit qu'ils n'ont pas et que je n'avais pas, moi, quand j'avais leur âge. Donc, je pense que c'est important. C'est comme ça que j'ai rencontré EVL. Et puis, effectivement, j'ai rencontré une structure où il y a, je dirais, tout le monde est très participatif. Et puis, chacun met en avant son savoir-faire. Moi, mon savoir-faire, c'était beaucoup la communication. C'est comme ça.
J'allais y venir. Voilà. Donc, vous êtes en charge. Concrètement, c'est... administrer le site internet, tout ce qui est communication externe.
Tout ce qui est, alors surtout pour l'instant, communication entre les bénévoles, parce que c'est quelque chose qui est la grosse différence avec une entreprise, c'est que finalement, c'est très rare qu'on se retrouve tous ensemble. Donc la communication...
Comment on garde du lien alors qu'on ne se voit pas forcément.
Voilà, garder le lien, garder l'intérêt, parce qu'on a toujours, donc je fais aussi des revues de presse qui permettent aux bénévoles de rester... au top de tout ce qui se fait dans les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est aussi fournir un lien et fournir des informations à l'ensemble des bénévoles.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait École et Vie Locale juste après avoir écouté Dua Lipa, Don't Start Now, sur IDFM Radio Anguin. toujours sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations, où nous recevons cet après-midi une partie de l'équipe d'École et Vie Locale. Alors, que fait concrètement École et Vie Locale, Henri?
Vous me donnez très longtemps pour répondre à cette question. Bah écoutez, nous intervenons dans les collèges et les lycées, une centaine d'établissements scolaires entre le 95 et les départements périphériques. Mais le centre étant le 95, et nous intervenons directement en classe auprès des élèves sous forme de modules de 2 heures. Alors nous avons une dizaine de modules qui vont depuis le savoir-être, les techniques de recherche d'emploi et de stage, connaissance de l'entreprise, table ronde. Alors, table ronde, c'est on va chercher les actifs parce qu'il y a les bénévoles de VL et puis il y a des actifs dans l'entreprise qui viennent à un moment donné parler d'une fonction. Parce qu'effectivement, nous, on reste plutôt, on va dire dans la généralité, on parle du fonctionnement global de l'entreprise. Par contre, un métier, une classe veut connaître le métier de RH, veut connaître le métier de producteur, de logisticien, il faut quelqu'un qui soit actuellement en poste, qui en connaisse toutes les contraintes, tout ce qui se passe dans la vie de ce métier-là. Et là, nous allons chercher donc des actifs. Et alors, l'argument que l'on a, c'est de dire, et je l'utilisais déjà quand j'étais à 3e en tant que formateur, et de dire, quand vous allez expliquer votre métier devant une classe, vous apprenez votre métier. Parce que il y a ce que vous faites dans votre fonction, il y a ce que vous faites, mais il y a ce que vous ne faites pas, parce que l'entreprise ne vous demande pas de tout connaître du métier. Et donc, vous allez vous renseigner avant et vous allez apprendre des choses. Donc, c'est un acte formateur pour un actif d'entreprise de venir devant une classe pour parler de son métier.
Alors, ce sont des collégiens et des lycéens. Quel accueil vous font les jeunes quand vous arrivez? Leur professeur leur dit « on va parler de l'entreprise ».
Écoutez, moi, j'ai jamais eu un accueil négatif. Au contraire, on n'est pas des professeurs, nous sommes des anciens de l'entreprise. Et si vous voulez, on apporte un plus par rapport à ce qui pourrait être l'enseignement, donc sur le monde professionnel. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? C'est de découvrir le monde de l'entreprise. Ils ont des stages, même en 3e, donc il y a des stages à effectuer. Et quand on intervient dans les lycées pro, principalement les lycées pro, ben les stages sont importants. Et ce n'est pas des stages d'une semaine, c'est des stages de 6 semaines parfois. Et donc, ils n'ont aucune notion de comment préparer un entretien, comment ça se passe pendant un stage. Il y a quand même des règles de fonctionnement. Donc, on leur apporte beaucoup de choses qui sont très, très constructives pour eux. Et on est toujours bien accueillis. Même si on a des classes difficiles, déjà, par notre présence, ils sont un peu plus respectueux. Ce n'est pas forcément facile tous les jours, mais c'est très rare, ces cas-là. Donc, on est très, très bien accueillis. Et les enseignants nous redemandent parce que pour eux, c'est vraiment très, très important, tout ce qu'on peut leur apporter.
Alors, vous, Jean-Pierre, vous intervenez dans les classes?
Ah, j'interviens dans les classes, donc dans la 4e à Bac+2. On intervient même dans les jurys, donc de BTS, par exemple BTS, anciennement assistant manager. Donc là, on participe en tant qu'ex-professionnel. Et là, ça nous permet aussi de découvrir un peu ce que font les entreprises, parce que c'est des jeunes qui font des stages dans des entreprises pour leur BTS. On intervient dans les jurys de Bac Pro aussi, donc Bac Compta, Bac Communication, donc gestion. Et donc, pour nous, c'est plus une animation, je dirais, hors jury, c'est une animation interactive, parce qu'on fait parler aux jeunes, on fait parler les jeunes. Et ce qui est important, c'est de leur montrer qu'ils ont des valeurs, ils peuvent réussir un projet, et c'est de les valoriser aussi en même temps. On essaye de leur donner plus de confiance en eux, parce qu'il y en a qui sont... Moi, je me rappelle, on a fait ce qu'on appelle les simulations d'entretien. Et lorsqu'ils sont avec nous, devant la classe, on fait des simulations en groupe, combien de fois les enseignants nous ont dit « mais j'ai découvert mon élève ». Parce qu'ils osent nous dire des choses, alors ils oublient la classe, ils oublient la classe, et là ils nous parlent de de leur parcours, de leur motivation, etc. Et ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est, c'est comme une phrase que je cite toujours, c'est Confucius qui a dit « fais le métier que tu as envie de faire, tu n'auras plus un seul jour à travailler ». Et tous y réagissent là-dessus. Et beaucoup ont des passions. Et s'ils peuvent faire ce métier dans la passion qu'ils ont, ils n'auront aucun souci après pour leur monde professionnel, quoi. Donc ça me plaît énormément de les valoriser, leur donner confiance, quoi.
Et alors, quelle image ils se font de l'entreprise, j'imagine, entre un collégien de 4e et un Bac+2?
Alors, le collégien, lui, il n'a pas une image très, très spécifique, très précise de l'entreprise. Le lycéen, là, ils ont besoin beaucoup de confiance en eux. Et parfois, ils ont peur, Mais bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est... Moi, le métier que je veux faire, c'est footballeur, c'est chanteur à la Starac. Bon, ben, ça, c'est du rêve, mais...
Ah non, Jean-Pierre, c'est fini, la Starac.
Voilà, c'est fini. Hein, alors,
c'est la nouvelle star.
Footballeur, tant qu'ils ne sont pas reconnus à 14 ans. Donc, j'essaye de leur faire comprendre. Bon, attendez, vous pouvez faire ça, hein, c'est vrai, en tant que passion autre que le métier, mais ça va être difficile. Donc, c'est d'essayer de trouver un métier.
Et si on se prévoyait un petit filet de sécurité.
Voilà. Tout à fait. Un plan B, comme on dit. Donc, voilà. Mmh. Non, ils aiment bien qu'on intervienne sur ce monde professionnel parce qu'ils n'ont pas forcément dans leur cours. Bon, si, dans leur cours, ils travaillent sur le CV, la lettre, mais ce n'est pas, c'est pas suffisant, quoi.
Il y a des questions qui reviennent souvent, qui les intriguent dans l'entreprise.
Alors, moi, ce que je rencontre souvent... Alors, déjà, je rebondis un petit peu sur votre question tout à l'heure sur l'accueil qu'on peut avoir. C'est toujours un petit peu attentif, c'est-à-dire qu'au début, c'est pas la grande folie de nous voir arriver. Ils attendent, ils voient, et puis très vite, c'est le bénévole qui intervient, qui fait qu'ils s'intéressent,
qui suscite l'intérêt, la curiosité.
C'est ça, parce que au début, ça les surprend un petit peu, parce qu'effectivement, on n'est pas professeur, et puis notre manière de nous exprimer, on parle beaucoup de nous, de nos expériences, et ça les intéresse.
Ce qui les marque, c'est les anecdotes qu'on peut leur apporter. Et ça, franchement, quand on a l'anecdote en entreprise, dans la vie de tous les jours, bah, c'est vrai que ça, quand on parle de savoir-être, par exemple, donc c'est les règles du savoir-être, mais c'est impressionnant. Il y a des choses, ils ne se rendent pas compte. Moi, quand je vois un jeune dans la classe avec des jeans troués, bon, bah, je m'approche, je dis, mais dis donc, t'es tombé ce matin, tu t'es fait mal. Alors, il rougit un peu, je dis, mais t'es déchiré. Ah ouais, mais monsieur, c'est la mode. Je dis, mais attends... nous, on intervient, regarde comment nous, on est habillés, on a fait un effort. Et c'est vrai que ça peut les choquer. Et le professeur nous dit, bah, tiens, c'est vrai que c'est important ce que vous leur dites là, par rapport au code vestimentaire.
Et alors, avec les professeurs, justement... Oui, Elisabeth,
oui, pour répondre à votre deuxième question, qui était leur relation avec l'entreprise. Oui. Bon, je ne sais pas comment vous, Henri, et vous les voyez. Mais moi, quand je leur explique que j'ai été entrepreneur, que j'ai monté plusieurs entreprises, alors souvent se positionne la situation du patron. Le patron qui exploite, le patron qui... Et puis, si vous licenciez, je suis sûre que vous en fichez. Enfin bon, ça, c'est très négatif.
C'est l'image négative du chef.
Ouais. L'image négative du chef, oui, beaucoup.
Vous ne recensez pas aussi une envie chez les jeunes, au contraire, d'être tous patrons?
Non, ils s'inquiètent beaucoup, c'est le chômage. Ouais. Et d'accord. Ça, combien il y en a qui te disent, oh, monsieur, à chaque fois ça sert que je travaille, je serai au chômage, etc. Et ça fait... C'est dur à entendre, et on l'entend souvent, ça. Donc, on essaie de les rassurer. Moi, je dis, écoutez, aujourd'hui, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais il y a des nouveaux métiers qui vont se faire. Donc, essayez de vous adapter. Aujourd'hui, là, on parle des métiers sur l'environnement, sur les énergies renouvelables. Il y a énormément de métiers qui se créent. Et c'est intéressant pour eux. Donc,
on ne vous parle pas d'argent?
Ah, alors ça...
Non, parce que moi, j'en ai fait de l'accompagnement de jeunes en entreprise.
Même à stage de troisième, on a souvent déjà dit combien je vais toucher. Et ça c'est... Moi, je vais te gagner 4000 euros. C'est un peu les idées qu'ils ont. Bon, là-dessus, nous, on a...
Alors, leur relation avec l'entreprise fait aussi que c'est... Alors, souvent, effectivement, troisième, seconde, quand on leur parle de leur CV, en leur disant, faites attention, pas de faute d'orthographe, etc. Moi, j'ai déjà eu la remarque, mais de toute façon, ils ne les lisent pas, ils vont direct à la poubelle. Alors, on s'en fiche.
Oui, c'est une espèce de fatalisme. Ah,
tout à fait.
Et désillusion un petit peu du monde.
Je veux dire, si quand on est sorti de nos interventions, il y a un peu plus d'espoir et de curiosité sur leur avenir, moi, je dis, super, on a gagné.
Oui, Henri.
Oui, il m'arrive souvent de leur poser la question à la classe entière, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce qu'il y en a qui veulent monter leur entreprise? Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir chef? Comment vous voyez? Et bien souvent, je rebondis sur l'aspect chef, parce que je leur dis, ben, chef, c'est quoi pour vous? Et étonnamment, le chef, pour eux, c'est quelqu'un qui commande, qui dit voilà ce qu'il faut faire, mais avec une bonne dose d'autorité. Et là, je les emmène sur le terrain du foot, en disant le foot, c'est quoi? C'est un capitaine, c'est un coach, je leur fais dire le mot coach. Et là, on avance et puis je leur fais comprendre que dans l'entreprise, maintenant dans une équipe, bien, le chef traditionnel, ils ont ça dans la tête. Et pourtant, c'était avant. Maintenant, c'est plus un rôle de coach. Et là, ils découvrent quelque chose. Ils découvrent que le coach, c'est pas simplement donner des ordres, mais c'est d'apporter un soutien, c'est de donner une vision. Et ça, ça leur, je pense que ça les marque.
Vous déconstruisez aussi les a priori, oui, les représentations,
oui,
les clichés.
Oui, oui, des
pour donner de l'espoir.
Exactement.
Oui, 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 et ce qui est
ouvrir les possibles.
Simplement un mot que j'entends souvent de la bouche des jeunes, c'est le piston. Ouais. Bon, moi, je croyais que c'était un vieux mot qu'on n'employait plus maintenant. Donc, on les amène vers la notion de réseau. Puis là, on élargit, bien sûr.
Et ce qui est important, c'est de leur parler, de leur... pas leur langage à eux, mais qu'on s'adapte par rapport à leur niveau. Les troisièmes, on n'a pas du tout les mêmes informations qu'on donnerait en lycée, par exemple. Voyez, donc, c'est de s'adapter à eux. Et là ils apprécient. Et pour moi, le summum, c'est quand on les retrouve, ces jeunes, c'est la reconnaissance qu'ils ont envers nous après justement leurs études. Si on en rencontre, parfois, ils disent « Oh ben monsieur, grâce à vous, j'ai réussi mon entretien. » Et là, ça fait plaisir. Quoi.
On se sent utile, quoi.
On se sent utile, exactement.
Et alors, à côté des interventions dans les classes, je crois que vous faites des visites en entreprise. Donc là, on s'en est parlé à l'école et maintenant, on va voir concrètement ce qui se passe sur les
lieux.
Alors,
la visite d'entreprise, comme on leur dit, c'est pas une journée de vacances. On a eu des situations assez difficiles qu'on a vécues pour une classe qui n'était pas du tout préparée. À l'époque, on allait directement dans l'entreprise après le contact. Et là, on a eu des jeunes qui se sont très, très mal comportés. Ils allaient un peu partout dans les allées, etc. Et la conclusion, c'est que l'entreprise ne veut plus nous voir. Elle ne veut plus voir le collège et on a perdu cette entreprise. Donc, on a décidé, il y a une quinzaine d'années, d'organiser ces entreprises par une intervention en classe pendant 2 heures où on prépare la visite d'entreprise. Donc déjà, on reparle de savoir-être. Donc on a monté, grâce à nos bénévoles informaticiens et qui ont des bonnes connaissances de l'informatique, on a monté une présentation justement sur la préparation d'entreprise, pourquoi on visite une entreprise. On présente ça et ensuite, on a même un exemple d'une lettre d'une responsable de Carrefour qui nous avait envoyé une lettre en disant ce qu'elle avait constaté comme positif et négatif. On leur montre tout ça. Et ensuite, on les fait réfléchir par groupe sur quelles sont les questions qu'ils auraient à poser pour l'entreprise. Et ces questions, c'est important parce qu'on leur dit on doit l'envoyer à l'entreprise pour que l'entreprise soit prête à vous recevoir. Donc, c'est vraiment toute une préparation de 2 heures qui est très, très importante en amont. Ensuite, on visite l'entreprise. On a donc plusieurs sociétés de car, dont un chauffeur qui est très, très sympathique. C'est pareil, on parle de savoir-être dans le car. Il y a des règles à respecter. La personne, elle est responsable de son car. Bon, ben, il respecte ça. On visite l'entreprise avec des encadrants, bien sûr. Et là, on est toujours très bien reçu. Et le retour, c'est pas fini, c'est qu'on leur demande un compte-rendu. On appelle ça un rapport d'étonnement. Voilà. Et qu'ils doivent nous transmettre. Donc, pour nous, c'est un projet. C'est un projet, on a une préparation, on a la visite et on a le débriefing, on a le rapport. Et ça, c'est super motivant pour nous et les élèves aussi.
Et vous allez chercher comment ces entreprises?
Henri. Au fil des années, on a tout un réseau d'entreprises, on a une trentaine d'entreprises qui sont plutôt petites, moyennes entreprises, quelques grandes entreprises, mais c'est plus difficile de visiter une grande entreprise. Quoi. Et puis maintenant, on a aujourd'hui un réseau d'une trentaine d'entreprises qui nous permettent d'aller chez eux quoi, et puis qui se sont pris au jeu. Et puis, il y a l'aspect sociétal. Quelles sont les entreprises qui nous reçoivent? C'est eux, c'est celles qui ont comme ligne de conduite d'être une société qui produit, bien sûr, mais en plus de produire, qui a cette vision d'intégration dans la société.
Oui, parce que ce que disait Jean-Pierre est très important, de pouvoir préparer en amont aussi bien les élèves que l'entreprise.
Oui.
De pouvoir être prête à répondre aux questions les plus farfelues aussi des élèves. Et puis aussi, elle, de se mobiliser, de mobiliser ses salariés sur cette journée où c'est une journée un petit peu inhabituelle.
Ah oui, moi j'ai l'exemple d'une entreprise, on y retourne, ça va faire la 3e ou 4e fois, c'est le Cercle Vert à Beaumont-sur-Oise. On est accueillis déjà dans un petit château. Ils reçoivent leurs clients, puisque eux, ils font beaucoup plus. C'est un distributeur de produits hygiène, entretien, et ils font aussi une sorte de cuisine. Et donc, on a un café d'accueil qui est formidable. Et ensuite, on visite toute la logistique. Mais c'est impressionnant d'accepter qu'une classe puisse venir. Donc, leur motivation à eux, c'est de faire connaître l'entreprise, mais aussi d'apporter aux jeunes peut-être des idées de métier, parce que en logistique, c'est impressionnant.
Ça fait, moi, je pense que ça fait, oui, voilà. Moi, j'estime que ça fait partie du rôle de l'entreprise d'aider les jeunes à découvrir le monde du travail et de s'intégrer. On ne peut pas avoir une barrière entre l'éducation et l'entreprise.
Surtout que ces métiers en entreprise, on ne les connaît pas quand on est au collège, au lycée. Si on n'a pas des parents qui sont déjà, eux, assez alertes sur les différents métiers en entreprise,
même
on n'imagine même pas.
Oui, même les parents les plus alertes, il faut que les gamins deviennent plus curieux de tout ce qui va, tout ce qui existe et tout ce qui va exister. Et souvent, les parents sont, je dirais, un peu largués par rapport aux métiers d'avenir.
Il y a une entreprise comme l'Écart Lacroix où on visite, bah les jeunes, c'est pas forcément de voir, bon, il y a les métiers d'Écart Lacroix, la mécanique, la logistique, mais c'est de voir aussi pourquoi il y a des règles à respecter quand on monte dans un bus, quand on monte dans un car, pourquoi on paye un ticket. Et ben ça, c'est important parce que c'est du concret pour eux. C'est pas parce qu'on vous oblige à acheter un ticket, non, pourquoi on achète un ticket? Et tout ça, c'est développé par le responsable de l'entreprise.
Vous les accompagnez à devenir des futurs professionnels épanouis, mais aussi des citoyens épanouis et actifs.
Vous savez, il y a une question que j'ai posée l'autre jour, c'était assez drôle parce que ça a bien animé la classe. Je leur ai dit, à votre avis, on parlait des différents métiers, donc vous avez tous un iPhone. Quels sont les différents métiers qui interviennent derrière cet appareil que vous utilisez tous les jours?
Et que vous aimez tant.
Et que vous aimez tant. Quels sont les métiers derrière? Ils étaient un peu secs. Et c'est dommage, c'est juste parce qu'il y a plein de métiers qu'ils pourraient faire, quel que soit leur niveau.
Alors EVL, vous intervenez dans les établissements scolaires et vous faites les passerelles avec, la passerelle avec l'entreprise. Vous intervenez uniquement sur de l'accompagnement collectif. On ne peut pas, nous, vous solliciter individuellement?
Non, c'est collectif.
C'est collectif, vous êtes sur un lien plutôt...
Oui. Pas qu'on n'en aurait pas envie, c'est pas que des bénévoles seraient intéressés, mais on se doit de garder un cap et puis un contour.
Et puis aujourd'hui, voilà, mission, c'est votre ligne directrice sur votre activité associative. Merci beaucoup, je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Alain Bachung, Ma petite entreprise.
Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être.
Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ses lèvres. Je perds le nord, garde en quand je vois se poindre les pyramides, néné, mes lubies. Là, je coule à mes oreilles ma petite entreprise, que n'est pas la crise, épanouie et l'exhibe les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Henri Allemand, Jean-Pierre Siffrit et Elisabeth Ducré d'École et Vie Locale. Alors, on a beaucoup parlé de l'activité d'EVL, mais il y a aussi tout votre réseau bénévole qui intervient, soit administrativement, pardon, soit et surtout dans les interventions dans les classes et auprès des jeunes et des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a un prérequis pour devenir membre d'EVL ?
Oui. Il y a un prérequis, c'est avoir envie d'aller devant les jeunes pour parler aux jeunes, pour leur expliquer son parcours, pour avoir envie de transmettre quelque chose. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, tous nos bénévoles ne sont pas des formateurs, n'ont pas l'expérience de formateurs, mais ça, ils vont l'apprendre sur place. Mais s'il n'y a pas cette envie d'aller se présenter devant les jeunes pour leur transmettre quelque chose, ça ne passe pas. Alors, on peut être un bénévole un peu timide, on peut être un bénévole qui s'extériorise davantage, mais on est là pour les guider. D'abord, quand ils rentrent chez nous, ils sont en duo avec un autre bénévole, ils commencent à apprendre sur le temps, on leur donne les supports, et petit à petit, il faut qu'ils arrivent à se sentir à l'aise. Alors, au départ, ils sont très proches des supports qu'on leur donne, après, ils vont s'en éloigner lorsqu'ils vont prendre de l'assurance. Et puis, il y a la gestion de la classe. Une classe, c'est un monde difficile, d'accord ? Même s'ils nous accueillent, même s'ils apprécient ce qu'on leur dit, maintenant, les élèves, les tenir pendant 2 heures, pas tranquille, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on fait beaucoup de
mais attentif,
d'échanges.
Quoi.
Oui, attentif. Beaucoup, nous, c'est l'interactivité de notre maître mot. Et voilà, il faut arriver à maîtriser ça, quoi. Parce que l'expérience, on l'a, il faut la mettre en forme. C'est, voilà, j'ai envie, encore une fois, d'aller devant les jeunes, et puis je vais apprendre petit à petit comment le faire.
Alors, vous avez une trentaine de bénévoles, oui. Mais leur profil, qui sont-ils ? Alors, des hommes, des femmes ?
Étonnamment, donc on n'est pas loin de la parité.
Jean-Pierre dit des femmes.
Pas loin de la parité. Ah ben oui, d'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Pierre parlait, il disait « prenez du plaisir ». Nous, on a un programme 5P, un programme 5P, parce que ça, c'est, on est des anciennes entreprises, on a des programmes. Il a parlé « prenons du plaisir », mais il n'y a pas que ça, il y a « restons professionnels ». On l'a été avant, pourquoi on ne le serait pas dans notre approche lorsqu'on est bénévole ? Soyons pragmatiques, ne partons pas dans les nuages. Les enfants, les élèves attendent quelque chose de bien concret. J'en ai 5 comme ça. Partageons nos expériences. Là, c'est formidable. Le mardi matin, par exemple, il y a Assaut Porte Ouverte et tous les bénévoles qui veulent venir viennent échanger le mardi matin. On n'a pas un programme très précis. Si, on complète le programme, le planning. Le planning, parce que le planning a encore des trous, même s'il est partagé au point de vue du côté Internet. Il faut combler les demandes des établissements scolaires. Et puis, allons vers la parité. Donc, je terminerai par ce point-là. Quoi.
Si je puis me permettre, moi, puisque je suis une des dernières arrivées dans l'association, une chose qui m'a plu dans l'association, c'est faut être prêt à s'engager, faut être prêt à partager. Mais c'est surtout qu'on est très libre du temps qu'on va donner dans l'association. C'est-à-dire qu'on arrive, en ce qui me concerne et en ce qui concerne d'autres bénévoles dans l'association, on a encore des activités et on arrive à gérer notre temps et le temps qu'on donne à l'association. C'est-à-dire que dans le planning, puisque Henri en a parlé, dans le planning, eh ben, on regarde tel jour, ben, je suis disponible, donc je peux prendre telle classe. Et puis j'aime bien intervenir avec tel bénévole, parce que ça existe aussi. Donc je prends cette intervention-là. Ou alors je ne suis jamais intervenue avec ce bénévole, ça m'intéresse de voir comment il intervient, donc je vais me mettre avec lui.
Et c'est à peu près combien de temps par semaine ? Ou par mois, quelle est votre échelle de
temps ? Je dirais, moi, quand je reçois un nouveau bénévole, je lui dis une intervention par semaine.
Voilà, donc voilà, on est sur ce rythme-là.
En dessous, on ne vit plus la vie de l'association, quoi. On est en dessous de la vitesse de vol, hein, pour se maintenir. Et l'autre point que je voulais, qui est pour répondre complètement à votre question, on est essentiellement, sans qu'on l'ait jamais écrit, sans qu'on l'ait jamais demandé, les bénévoles ont été à un moment donné responsables dans l'entreprise. Ils ont été responsables, ils ont eu une équipe et ça s'est fait d'une façon naturelle. Pourquoi ? Parce que quand on va devant les élèves, eh bien, on ne va pas parler spécifiquement d'un métier, on va parler du fonctionnement de l'entreprise. Et pour ça, il faut
d'avoir une vision plus globale
et une vision globale. Et d'ailleurs, cette vision se complète. Moi, j'aime dire que j'ai appris l'entreprise quand je l'ai quittée, parce que on vit tous les jours la vie d'entreprise. C'est très stressant, de plus en plus stressant, et on se pose pas forcément une question plus large sur l'entreprise. Et quand on va devant les élèves, mais il faut l'avoir cette vision plus large.
Donc, pas d'inquiétude pour les futurs bénévoles qui viendraient toquer à votre porte. Ils sont accompagnés, ils sont suivis, il y a un binôme, parrainé. Oui. Donc, tout est fait pour mettre à l'aise les bénévoles et qu'ils soient à la fois heureux d'être bénévoles à EVL et qu'ils y trouvent du sens.
Dès que quelqu'un nous dit « oui, je suis intéressé », on fait tout ce qu'il faut, hein. Parce qu'on cherche des bénévoles. On a besoin d'encore d'autres bénévoles.
Et vous n'essayez pas d'aller les chercher aussi dans les entreprises avec qui vous travaillez ?
Ah ben non, tout ça c'est mieux.
Tout est possible.
Oui, il y a des bénévoles qui sont venus grâce au forum des associations, par exemple, dans les communes. Hein. Oui. Donc là, on a des bénévoles qui sont venus nous voir et on leur a expliqué ce que c'était. Et ils sont venus en test, par exemple, vous voyez, on essaie de voir un peu comment ça se passait. Et puis bon, ils ont été emballés.
Et puis, les meilleurs recruteurs pour l'association, c'est aussi les bénévoles eux-mêmes.
Oui. Bah, c'est les meilleurs ambassadeurs.
Parle, exactement. Hein. On en parle. Si on est passionné par ce qu'on fait, on en parle. Et d'emblée...
Alors, quels sont les projets pour EVL, les enjeux ?
Les enjeux, je dirais, c'est de continuer de progresser. De progresser, soit dans les interventions dont je vous parlais tout à l'heure, soit on n'en a pas parlé, le temps nous manque un peu, dans les mini-projets tels qu'on peut faire avec certains collèges ou lycées, où il y a un partenariat avec le monde économique qui va plus large que les interventions qu'on peut faire ponctuellement.
Il y en a
un, par exemple, avec le lycée Daguerre, où là, il y a tous les acteurs économiques de la ville de Cormeil, qui viennent intervenir. 8 professeurs rentrent dans le jeu, et on s'aperçoit que l'idée, c'est que tout ce que vous apprenez à l'école, quelque part, va vous servir en tant que culture générale. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plus large. Bon, il nous faudrait plus de temps pour en parler. Avec une fondation, on a la fondation Placoplate, par exemple, qui est là. Il y a plusieurs entreprises qui interviennent en classe et tous les profs sont mobilisés, chacun dans leur discipline, pour apporter quelque chose.
Et l'intervention est moins ponctuelle, elle est peut-être plus sur une année.
Sur une année. Mais là, on peut se permettre de mener un projet comme ça par an, mais ça prend énormément de temps. On peut guère aller plus loin qu'un ou deux projets par an.
Et je pourrais ajouter quelque chose pour ce projet, c'est que les élèves se sont super bien motivés, qu'ils ont créé, comment on appelle ça, un blog radio, donc une petite radio, et ils expriment justement tout ce qu'ils ont pu faire. C'est formidable de voir ça dans un collège.
Alors, nous, pour revenir à nos enjeux, si vous voulez, les enjeux, c'est quoi ? D'un côté, les entreprises, de l'autre côté, les établissements scolaires, élèves et professeurs, les bénévoles, d'accord ? Et puis, il nous faut des ressources financières. Et ressources financières, actuellement, on est très soutenu par des institutionnels, conseil départemental et conseil régional. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est équilibrer davantage avec le privé. Parce qu'il est certain que si un de nos financeurs institutionnels demain nous dit vous n'êtes plus la priorité, on met la clé sous la porte.
Donc d'aller plus vers des fonds de mécénat.
Il faut que l'on diversifie. faut que l'on diversifie et on va aller vers les dons et mécénat, c'est-à-dire un équilibre entre privé et public.
Merci beaucoup à tous les trois, Henri Allemand, Jean-Pierre Siffrit et Elisabeth Ducré, de nous avoir présenté votre association avec autant de bienveillance et d'engagement, de permettre aux jeunes cette passerelle entre l'univers scolaire et le monde du travail, d'ouvrir les possibles et de leur proposer une opportunité souvent unique de pouvoir échanger avec des professionnels en activité, de pouvoir pousser la porte des entreprises et d'y voir un peu plus près, un peu plus clair. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Il y a encore beaucoup à dire, mais ne pas hésiter à prendre contact avec vous. Alors, justement, comment on peut vous contacter pour devenir bénévole, notamment, ou partenaire?
Alors, on a un site qui s'adresse aussi bien aux établissements qu'aux bénévoles qui sont intéressés, qui est École et Vie Locale. Et puis, il y a toutes les informations sur l'association. Et puis, bien sûr, pour nous joindre par mail, EVL2, le chiffre 2, @wanadoo.fr.
Et puis, vous avez vos locaux qui sont à Cergy.
Qui sont 5 avenues de Villarceau à Cergy.
Et vous êtes ouvert régulièrement?
On a une personne salariée chez nous et qui est là 4 jours par semaine. Et qui est en permanence, qui est notre coordinatrice, en l'occurrence, qui s'appelle Régine Sandrier.
Merci beaucoup, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous et vous souhaite encore beaucoup de bénévoles, d'entreprises engagées, du soutien financier, matériel, logistique, pour continuer à développer ces rencontres entre les actifs de demain et les actifs d'aujourd'hui et contribuer ainsi, je l'espère, à plus d'ambition et de confiance en soi. Je remercie toujours Philippe à la technique de cette émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse mail suivante contact@csa95.com. C'était Audrey Lamolly sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 7 février à 14h avec l'association Entraide Scolaire. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt.
Oasis ou Montmorency, Église Saint-Germain, samedi 25 janvier 14h30, l'équipe paroissiale vous invite à la projection du film « Je m'appelle Bernadette », suivi d'un débat avec le réalisateur Jean Sagols et le scénariste Serge Lascar. Le thème, une histoire hors du commun. Renseignements 01 39 89 29 80, entrée libre, libre participation aux frais.
Espace Rive Gauche de Mériel, 2 rue des Petits Prés. 6e édition du festival Musiques en scène du 24 au 26 janvier 2020. Une programmation exceptionnelle vous fera voyager de l'Amérique à l'Europe.
vendredi 24 janvier, 20h30, l'ensemble Contraste et la soprano Magali Léger vous entraîneront sur les traces de l'inoubliable Joséphine Baker. Dimanche 26 janvier, 16h, l'orchestre de la Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Krause et le clarinettiste cargèse Gersten, interpréteront des œuvres de Sibelius à Mozart, en passant par Nino Rota et Fantaisie de Luigi Bassi sur des thèmes de Verdi.
Réservation 01 34 40 57 30. Plus d'informations, espace Rive Gauche 01 34 48 12 16.
Salut à toutes et à tous, ici Jean-Philippe Doré. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches soirs de 22h à 23h pour Rock Power. IDFM 98 MHz à la puissance rock, le rock dans tous ses états et dans tous ses éclats, depuis le début des années 1970 et jusqu'aux années 80 et même 90, sur IDFM 98 MHz. Wow.